VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du lundi 5 novembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par l'éthique.
Au Cameroun, 19 opposants ont été interpellés dans des manifestations à Bafoussam.
Washington veut exclure la Mauritanie de l'AGOA à partir du 1er janvier 2019.
En Égypte, le ministère de l'Intérieur dit avoir tué 19 djihadistes présumés liés à l'attentat meurtrier contre la minorité copte vendredi à Minya.
Ici aux États-Unis, démocrates et républicains redoublent d'efforts à la veille des élections de mi-mandat de mardi.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, 19 partisans de l'opposant Maurice Kamto, l'un des candidats à la présidentielle du mois dernier, ont été arrêtés dimanche à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Ils prenaient part à une manifestation de contestation de la victoire du président Paul Biya. De Yaoundé, le point avec notre correspondant Emmanuel Jumtap.
Selon des sources du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le parti de Maurice Kamto, ses partisans ont été arrêtés et conduits à la police judiciaire de Bafoussam. Les interpellations ont eu lieu hier, peu avant 10 heures en temps universel, en deux endroits de cette ville. Sur une vidéo dont VOA Afrique a obtenu copie, l'on aperçoit quelques militants du MRC assis à même le sol, tenant des branches d'arbres en main et criant non au hold-up électoral. Des manifestants, une dizaine environ, qui ont bravé l'important dispositif policier en place à Bafoussam durant toute la journée d'hier. 16 militants du MRC qui manifestaient pacifiquement le 28 octobre à Yaoundé contre les résultats de la présidentielle avaient été eux aussi arrêtés et remis en liberté deux jours plus tard. Le président Biya, réélu pour un 7e mandat consécutif, a prêté serment ce mardi, ce même jour. Les partisans de Maurice Kamto ont prévu des rassemblement de protestations pacifiques contre la prestation du serment du président Paul Biya. Des activités d'ores et déjà interdites par les autorités préfectorales, l'opposant Maurice Kamto avait réclamé la victoire à l'issue de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Le Conseil constitutionnel l'a finalement classé au second rang avec 14,13% des suffrages. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a annoncé son intention de mettre fin à l'admissibilité de la Mauritanie aux avantages liés aux préférences commerciales en vertu de la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, l'AGOA, à compter du 1er janvier 2019, et ce en raison de pratiques de travail forcé. Nathalie Barche.
Sur la base des résultats de la révision annuelle requise de l'admissibilité à l'AGOA, le président Donald Trump a déterminé que la Mauritanie ne progressait pas suffisamment dans la mise en place de la protection universelle des droits des travailleurs. La Mauritanie ne respecte pas les critères d'éligibilité de l'AGOA, indique un communiqué du bureau du représentant américain au commerce, précisant que le pays n'a pas progressé dans la lutte contre le travail forcé, en particulier le fléau de l'esclavage héréditaire. En outre, le gouvernement mauritanien continue de limiter la capacité de la société civile à travailler librement pour résoudre les problèmes liés à la lutte contre l'esclavage. Les pratiques de travail forcé ou obligatoire telles que l'esclavage héréditaire n'ont pas leur place au XXIe siècle, a déclaré le représentant adjoint du commerce des États-Unis, Curtis Mahoney. Cette action souligne la détermination de notre administration à mettre fin à l'esclavage contemporain et à appliquer les dispositions relatives au travail dans nos lois et accords commerciaux, poursuit le communiqué, soulignant que Washington espère que Nouakchott travaillera avec les États-Unis pour éliminer le travail forcé et l'esclavage héréditaire afin que son éligibilité à l'AGOA soit rétablie à l'avenir.
Nous reviendrons sur l'AGOA, la Mauritanie et les États-Unis en seconde partie de cette édition.
En Égypte, 19 djihadistes présumés liés à l'attentat anticopte qui a fait 7 morts vendredi à Minya, dans le centre du pays, ont été tués dans un échange de tirs avec la police, a annoncé hier le ministère de l'Intérieur. Au moins 7 autres personnes ont été blessées dans cet attentat revendiqué par le groupe État islamique contre un bus transportant des fidèles chrétiens coptes près du monastère de Saint-Samuel en plein désert dans la province de Minya.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, de nombreux militants et candidats des partis démocrates et républicains ont sillonné hier le pays pour mobiliser leurs électeurs avant les législatives de mardi. De nouveau, Eric Manirakiza.
Jamais autant d'argent n'a été englouti par des élections de mi-mandat, créant une avalanche de publicité à la télévision, la radio et sur Internet. Plus de 5 milliards de dollars auraient été dépensés de part et d'autre pour influencer le vote des Américains. Selon le site spécialisé opensecrets.org, ces chiffres éclipsent de 35% le précédent record pour des élections de mi-mandat en 2014. On n'a jamais vu autant d'enthousiasme chez les Républicains, sauf peut-être à la présidentielle de 2016, a dit Donald Trump hier depuis la Maison-Blanche, avant de s'envoler vers la Géorgie pour un autre meeting de soutien aux candidats républicains. L'opposition sait que ce premier rendez-vous électoral national est souvent fatal au parti au pouvoir et compte sur un vote sanction accentué contre le président Barack Obama en 2010, George W. Bush en 2006, Bill Clinton en 1994 et Ronald Reagan en 1986 ont chacun perdu leur majorité à la Chambre des représentants, la chambre basse du Congrès, dont les 435 sièges seront entièrement renouvelés pour 2 ans.
Nous reviendrons également sur les enjeux de ces élections de mi-mandat en seconde partie de cette édition.
Le mari d'Asia Bibi réclame l'asile pour sa famille aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou au Canada, alors que le sort de la Pakistanaise, acquittée la semaine dernière après avoir été condamnée à mort pour blasphème, demeure très incertain dans son pays. De nouveau, Nathalie Barge.
Achik Massi s'adresse aux dirigeants de ces pays dans un message vidéo dans lequel il réclame également l'asile pour Joseph Nadim, qui héberge sa famille depuis 2010. Si Asia Bibi quitte le pays, chaque membre de sa famille, chaque personne associée à elle sera tuée. S'est inquiété Wilson Chaudhry, président de l'Association des chrétiens pakistanais de Grande-Bretagne, qui estime à moins de 20 le nombre de personnes devant obtenir l'asile dans cette affaire. Préalable à son départ du Pakistan, la libération de la chrétienne, qui semblait acquise après son acquittement mercredi par la Cour suprême, paraît toutefois incertaine. Le gouvernement a signé dans la nuit de vendredi à samedi un accord avec des manifestants islamistes qui ont paralysé le pays 3 jours durant. Il s'est notamment engagé à lancer une procédure visant à interdire Asia Bibi de quitter le territoire et à ne pas bloquer une requête en révision du jugement d'acquittement initié par un religieux.
Les membres de l'ONU procèdent ce lundi à Genève à l'examen de la situation des droits de l'homme en Arabie Saoudite, en pleine tempête autour du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, tué dans le consulat de son pays à Istanbul le 2 octobre, ce qui avait suscité et continue de susciter un vif tollé dans le monde. Les membres des Nations Unies doivent se soumettre à cet examen dit périodique universel environ tous les 4 ans.
L'Iran va mal, a estimé hier le président Donald Trump. Quand j'ai pris mes fonctions juste avant, on pensait que l'Iran allait dominer tout le Moyen-Orient ou allait le faire dans moins de quelques années, très vite. Plus personne n'en parle aujourd'hui, a-t-il déclaré. 6 mois après avoir claqué la porte de l'accord sur le nucléaire iranien, les États-Unis ont confirmé qu'ils rétabliraient aujourd'hui leurs sanctions les plus draconiennes contre Téhéran. Les entreprises asiatiques ou européennes se verront interdites de marché américain si elles continuent d'importer du pétrole iranien ou d'échanger avec des banques iraniennes ciblées par Washington. Beaucoup devraient choisir les États-Unis ou l'ont déjà fait. 8 pays bénéficieront toutefois d'une exemption pour le pétrole, dont la Turquie et peut-être la Chine et l'Inde. La liste doit être annoncée ce lundi.
Le président chinois Xi Jinping a promis une nouvelle fois d'ouvrir davantage le marché chinois aux importations, devant un parterre de dirigeants mondiaux réunis au tout premier salon des importations de Shanghai, le président chinois a assuré que son pays allait augmenter ses efforts pour ouvrir son marché et accroître ses achats à l'étranger, mais sans annoncer de grandes mesures concrètes.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
En 2019, le pétrole devrait s'établir en moyenne à 74 $ le baril, d'après la Banque mondiale. Les produits énergétiques, dont le pétrole, le gaz naturel et le charbon, prévus pour augmenter en moyenne de 33% en 2018 par rapport à l'année précédente, devraient se stabiliser globalement en 2019. La banque exclut donc une potentielle remontée des cours à 100 dollars, comme le prévoient de nombreux analystes du marché. La cause de cette situation résidera dans la robustesse de la production américaine. En Angola, le projet de loi de finances exercice 2019 se chiffre à 36 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 31 milliards de dollars du précédent budget, afin de se conformer aux recommandations des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Les autorités ont décidé d'augmenter la part des dépenses gouvernementales liées au secteur de l'éducation et de la santé. Le gouvernement envisage aussi de relancer les investissements agricoles afin de stimuler la production nationale. En Afrique du Sud, les exportations agricoles vers les États-Unis ont rapporté 367 millions de dollars en 2017 en vertu de la loi américaine sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, à Goa. Les principaux produits agricoles expédiés sont les agrumes, le vin et les noix en 2017.
À présent, les sports avec Élisée Ungpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
En Afrique, la finale aller de vendredi dernier entre Al Ahly et Espérance de Tunis continue de faire parler d'elle.
La CAF a décidé de geler l'arbitre algérien Mehdi Abid Sharef ayant officié cette rencontre et ce sur fond de sa triste prestation ont rapporté plusieurs médias tunisiens. Il aurait également été privé de la Coupe du Monde des clubs aux Émirats Arabes Unis. L'Espérance de Tunis a par ailleurs demandé une sanction à l'encontre de l'attaquant d'Al Ahly Walid Azaro qui a déchiré son maillot pour induire l'officiel en erreur sur le second pénalty. De son côté, l'entraîneur des Diables Rouges, Patrice Cateron, a affirmé sur la chaîne TV du club avoir été attaqué par un joueur de l'Espérance. Le match retour prévu le 9 novembre prochain au stade olympique de Rades s'annonce donc époustouflant. Un match qui sera d'ailleurs dirigé par l'arbitre éthiopien Bamlak Tesema.
En attendant cette finale retour très attendue, la CAF a annoncé hier deux décisions suite à la réunion du comité d'organisation des intercoms. Club.
Oui, et à défaut d'avoir communiqué le résultat du tirage au sort de l'édition 2018-2019 de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF, la Confédération africaine de football a d'abord annoncé qu'exceptionnellement, en raison du décalage de la CAN Cameroun au mois de juin-juillet, le tour préliminaire de la Coupe de la CAF aura lieu avant la finale de cette édition entre le Raja et l'ASV Club. La CAF a par ailleurs ajouté que le pays vainqueur de cette Coupe n'aura pas le droit d'être représenté par un troisième club au cas où le vainqueur n'a pas validé son billet via les compétitions nationales.
Élisée, la République démocratique du Congo connaît déjà ses représentants et parmi eux, le TP Mazembe et l'AS Vita Club qui s'affrontaient hier en championnat.
Effectivement, Idrissa, et c'est lors de la 8e journée, un classico congolais bouillonnant par son caractère prestigieux et son enjeu qui a tourné à l'avantage des Corbeaux vainqueurs 3-2. 8 matchs, 8 victoires pour le club de Lubumbashi, solide leader au classement général. Au Bénin, le championnat est à sa première journée et déjà 4 clubs partagent la première place. Notons entre autres USAE et Afrancourt au Minisport, vainqueurs de 1 respectivement à Boïcon contre l'AS Tonnerre et à Porte-Novo face à la Sousse. Et puis au Togo, le championnat est à sa 6e journée. Goumido de Kalimé, vainqueur 2-0 d'Asco de Kara, partage la première place au classement avec Sara FC accroché par Fouadan. Notons que le champion en titre, Koroki, a été battu 3-1 à Lomé par l'AS Togo Port.
Direction Ouagadougou à présent pour l'épilogue du tour cycliste du Faso 2018 avec la consécration pour le Burkinabé Mathias Sorgho.
Oui, la 10e et dernière étape remportée par le Belge Timmy de Bos n'a rien changé. Sorgho remporte ainsi le 31e tour du Faso marqué par les mesures de sécurité. Le champion du Faso 2017 était déjà monté 2 fois sur la 3e marche du podium Idrissa, mais jamais encore sur la plus haute. À 31 ans, il s'impose enfin après 7 jours consécutifs en jaune. Et puis, du basketball pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit en NBA.
Milwaukee et Sacramento 144-109, Brooklyn et Philadelphie 122-97, Washington et New York 108-95, Orlando et San Antonio, 117 à 110. Phoenix et Memphis, 102 à 100. Portland et Minnesota, 111 à 81.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur l'intention du président américain Donald Trump de mettre fin à l'admissibilité de la Mauritanie à Lagoa dès le 1er janvier. La Mauritanie ne respecte pas les critères d'éligibilité de la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, indique un communiqué du bureau du représentant américain au commerce, précisant que le pays n'a pas progressé dans la lutte contre le travail forcé, en particulier l'esclavage héréditaire. Pour une réaction, Nathalie Barge a joint le cofondateur de l'Institut pour l'abolition et leader de la diaspora mauritanienne à Washington, Bakary Tandia.
Personne ne souhaiterait voir son pays être sanctionné. Et en fait, cette décision est une forme de sanction, car elle prive le pays d'avantages commerciaux considérables et a un effet négatif sur l'image du pays. Mais le problème, c'est le régime qui est au pouvoir en Mauritanie, qui en est le seul responsable à cause de la situation catastrophique des droits de l'homme. Le problème de l'esclavage, la discrimination raciale, l'injustice sociale, j'en passe. Et je vous donne quelques exemples. Depuis l'arrestation de Biram Ouda, qui est le président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, le 7 août, on assiste à une recrudescence de la répression contre les activistes, particulièrement les activistes anti-esclavagistes. Bon, nous avons l'exemple du sénateur Mohamed Oulgada, qui est toujours en prison. Nous avons également le jeune Mohamed Mouhaïtir, un blogueur qui était condamné à mort et sa peine a été commuée à 2 ans de prison en appel. Et normalement, il devait être en toute liberté, mais il est encore détenu. Nous n'avons aucune idée de son lieu de détention.
Alors justement, est-ce que vous pensez que cette initiative de la part des États-Unis, de la part du président américain, va permettre à tous ces prisonniers, notamment, d'être libérés ou en tout cas pour certains?
Nous pensons que cette décision va être un signal très fort indiquant la position des États-Unis par rapport à la situation des droits de l'homme en Mauritanie. Nous espérons que si, en tout cas, le régime au pouvoir est intelligent, ils vont faire le nécessaire pour respecter les droits fondamentaux de ces personnes-là, d'autant plus qu'il n'y a aucune base légale pour les maintenir en prison.
Le communiqué précise également espérer que la Mauritanie travaillera avec donc les États-Unis pour éliminer le travail forcé, l'esclavage héréditaire, afin que son éligibilité à l'AGOA soit rétablie à l'avenir. Et il pointe du doigt le fait que le gouvernement ne permet pas à la société civile de travailler justement pour lutter contre l'esclavage. Est-ce que vous pensez qu'à partir de là, le gouvernement fera peut-être plus d'efforts pour vraiment collaborer avec vous contre ce fléau?
Au lieu de collaborer avec la société civile pour atteindre ses objectifs qui consistent à supprimer et à éliminer totalement toutes les formes d'esclavage en Mauritanie, le gouvernement s'est engagé dans une répression aveugle contre ces organisations et contre ces personnes-là. Donc nous pensons que s'ils se soucient de l'avenir de la Mauritanie, ils vont collaborer d'une manière productive. Cesser la répression contre les membres de la société civile et libérer toutes les personnes qui sont actuellement en détention.
L'abolitionniste mauritanien Bakary Tandia, joint à Washington.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Niger, les autorités ont mis en place une cellule de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent pour faire face à ces deux phénomènes qui alimentent le terrorisme et les autres formes de criminalité auxquelles sont confrontés le pays et la région sahélienne en général. De Niamey, notre correspondant Abdulrazak Idrissa fait le point.
Vu la complexité du phénomène de la radicalisation et de l'extrémisme violent, l'animation de cette cellule de veille et de prévention a été confiée à une équipe pluridisciplinaire, Oustaz Haladou Yahaya, prédicateur, membre de la CELRAD Niger.
Dans la cellule de la CELRAD ou internationale, il y a des représentants, des enseignants-chercheurs, des chefs traditionnels, des religieux. Pour mener à bien cette tâche, nous avons dans notre société des valeurs sociales dans lesquelles il faut puiser. Nous avons les ressources, nous avons des systèmes éducatifs forts qu'il faut utiliser et qu'il faut exploiter, et des acteurs aussi sur le terrain compétents, même par le passé. Et qu'est-ce qu'on utilisait, quelle éducation on utilisait, quel système on avait fort pour que la société vive en paix, pour qu'il y ait cohésion sociale, pour qu'il y ait entraide.
Le contexte et les enjeux de la mise en place de cette cellule ont été rappelés aux membres par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur au lancement des activités, Ider Adamou.
La création d'une antenne nationale de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent et qui est le répondant de la cellule régionale de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, CELRAD, tire sa source dans l'axe gouvernance du secrétariat permanent du G5 Sahel. Cette structure et ses répondants dans les différents pays du G5 Sahel constituent des instruments de mise en œuvre de l'un des objectifs du G5 Sahel, qui est la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans le Sahel. Par la mise en place de ces structures, le G5 Sahel s'inscrit dans une dynamique proactive, car, comme le dit un adage bien connu, mieux vaut prévenir que guérir. Il est unanimement reconnu que l'extrémisme violent se nourrit des difficultés économiques et de la faiblesse des politiques d'éducation et de communication des États.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Tchad, avoir de l'électricité est un luxe pour les ménages, selon notre correspondant sur place, qui ajoute que N'Djamena, la capitale, ne ressemble pas à une ville moderne, alors que les autorités rêvent d'en faire une vitrine de l'Afrique centrale. Les habitants de certains quartiers sont dans le noir depuis plusieurs mois, une situation décriée par les consommateurs, voire par les députés qui, la semaine dernière, ont interpellé à l'Assemblée nationale le ministre du Pétrole. Notre correspondant sur place, André Kodmadjingar.
Après plus de 100 ans d'existence, N'Djamena est loin de ressembler à une capitale. Bien qu'elle soit dotée de 3 centrales électriques et une mini-raffinerie qui produit de l'énergie, il est pratiquement impossible d'avoir de l'électricité en permanence, privant ainsi des ménages qui veulent bien faire des provisions dans des congélateurs. Dès la tombée de la nuit, la ville est plongée dans le noir, alors que le Tchad est un pays exportateur de pétrole. Quelques consommateurs accusent les agents de la SNE, Société Nationale d'Électricité, de mauvaise foi.
L'électricité, là, vraiment, c'est une denrée rare ici au Tchad, surtout dans notre quartier Chagouaï. De façon, ça arrive à 1h du matin et quand tu te réveilles à 5h, tu n'as plus d'électricité. Déjà 3 mois que nous n'avons pas l'électricité. Nous sommes obligés de dégager les fruits qui sont dans les frigos. Dans d'autres quartiers, là, vous avez l'électricité 24 heures sur 24 heures. Mais qu'ils nous disent le problème est à quel niveau.
Nous avons un sérieux problème d'électricité ici à Walia. L'électricité ne vient que les minuit ou à 1h du matin.
Il faut que le gouvernement nous trouve une solution parce que beaucoup de gens n'aiment pas rester au Tchad à cause de l'électricité.
Une situation que déplorent également quelques citoyenne de passage à N'Djamena.
Je suis venue pour voir la capitale, mais la capitale, ça va pas carrément. On coupe l'électricité, après on amène à 23 heures, des fois 1 heure, et après 5 minutes, on coupe et ça m'énerve beaucoup. C'est quelle capitale qu'il n'y a pas d'électricité comme ça, là? Ça me donne de la merde.
Après la visite inopinée du président Déby à la direction de la SNE qui semble rien donner, le député à l'Assemblée nationale interpelle le ministre en charge du pétrole la semaine dernière sur les vraies raisons du délestage intempestif de l'électricité dans certains quartiers de N'Djamena. Malheureusement, ils ne se sont pas entendus sur la forme du débat. D'aucuns optent pour une question d'actualité, d'autres pour une question orale avec débat. Réaction de l'auteur de la question, Ahmad Issa Badi, député du parti au pouvoir.
C'est une question très sensible. Aujourd'hui, c'est toute la population qui est concernée. Il faudrait que ce soit une question orale avec débat pour que vraiment la population comprenne que nous, députés, nous sommes aussi concernés.
Ridicule que cela paraître, juste après cette interpellation qui d'ailleurs est renvoyée à une autre séance, les consommateurs ont remarqué que les responsables de la SNE cherchent à se racheter comme en en témoignent quelques-uns.
Je ne sais pas, c'est parce que le ministre du pétrole a été interpellé. Avant-hier, nous avons l'électricité, ils ont repris ça vers le 16h. Et je crois même hier, nous avons l'électricité. Jusqu'à ce petit matin, ils ont repris.
C'est pendant 2 jours ici, nous a laissé l'électricité. Par rapport à leur facture qu'on nous a remis là, on a réglé leur facture.
Contacté par VOA Afrique, le responsable de la Société nationale d'électricité refuse de donner les vraies raisons de ce délestage. André Kodmbadjingar Djamena, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Ici aux États-Unis, difficile de trouver des sujets sur lesquels démocrates et républicains s'entendre. À la veille des élections de mi-mandat, qui auront lieu donc demain mardi, toutefois, les deux partis sont convaincus que le président Donald Trump sera au cœur de ces élections qui détermineront le contrôle du Congrès pour les deux prochaines années. Reportage de Jim Malone, présenté ici par Irénée Herman Ungbo.
Le président Donald Trump a fait de ces élections de mi-mandat une affaire personnelle.
Tous ces progrès extraordinaires sont en jeu. Ils sont en jeu. Je ne suis pas dans la course, mais j'y suis d'une manière ou d'une autre. Alors je vous en prie, sortez et allez voter. Sortez et allez voter.
Autant Trump motive ses partisans, autant il alimente des critiques comme Jenny Haynes.
Il y a une résistance active contre ce président qui fonctionne comme s'il était au-dessus des lois.
Il est clair pour certains analystes que Trump est la figure centrale de ces élections.
Évidemment, les démocrates attendent de ce moment depuis le lendemain des élections de 2016. Et tout tourne autour de Trump. Il aime ça aussi et se veut d'ailleurs au centre de tout.
Trump a cependant accéléré une tendance pour nationaliser les élections législatives.
Maintenant, tout est national et tout le monde pense à un référendum pour ou contre le président et son parti.
Ce qui paraît logique pour le président Trump et sa base, à en croire cet ancien conseiller.
Je pense que si vous faites de ce scrutin un référendum national et misez tout sur le succès du programme du président Trump, vous êtes clairement gagnant et je pense que les démocrates se font écraser.
Mais d'autres sont sceptiques, notamment l'ancien président du parti républicain Michael.
D'accord. Tu veux que tout se résume à toi? Très bien. Chaque candidat en liste doit être pris en compte dans tes comportements, tes tweets.
Get out and vote. Thank you.
Trump peut susciter le plus haut taux de participation chez les démocrates, indique le congressman Dutch Rupert Berger.
Lorsque vous ne vous souciez que de vous-même et non des autres, même pas de ce dont ils ont besoin, même pas des personnes âgées qui ont besoin de soins médicaux et que vous voulez juste bien paraître puis les assommer politiquement, ça fait mal et c'est pourquoi, je pense, beaucoup de gens vont sortir pour voter.
Mais le président ne s'en inquiète pas et préfère plutôt se rallier à ses propres partisans.
Il a en quelque sorte renoncé à essayer d'élargir son cercle. C'est son style. Comme nous le savons tous, il y a une allure de combattant. Il aime avoir des ennemis parce que cela lui donne quelqu'un contre qui se battre. Il serait donc difficile pour un président comme Trump de mener une politique inclusive.
Le nom de Donald Trump n'apparaîtra nulle part sur les bulletins de vote le 6 novembre. Mais les résultats pourraient déterminer l'avenir de sa présidence.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-92. 4-0. Je répète, 225-5892-4-0. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.